France Info.
Et à la une de ce 4 février, l'émotion et l'incompréhension à Sanary. Vous allez entendre des élèves choqués alors qu'un de leurs camarades a agressé au couteau une enseignante. À la une aussi de l'inéligibilité requise contre Marine Le Pen à nouveau à son procès en appel. Mais l'accusation ne demande pas d'application immédiate. Dans ce journal, les négociations directes entre Ukrainiens, Russes et Américains qui reprennent aujourd'hui. Et puis l'OM qui se rassure après l'élimination en Ligue des Champions de football. Large qualification cette fois contre Rennes pour les quarts de finale de la Coupe de France. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? C'est la question que tout le monde se pose à Sanary dans le Var. Après l'agression d'une professeure de collège par un de ses élèves, une enseignante d'art plastique âgée de 60 ans, elle a été poignardée en début d'après-midi hier en pleine classe par un adolescent de 14 ans. Son pronostic vital était engagé hier soir, même si son état est stable après l'opération qu'elle a subie à l'hôpital militaire de Sainte-Anne. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est la piste du ressentiment qui est privilégiée. L'élève venait depuis plusieurs jours avec un couteau. Il avait confié à des camarades son envie de s'en prendre à son enseignante. Aujourd'hui, il n'y aura pas de cours. Une cellule psychologique est ouverte pour les adultes et pour les enfants, mais parler est parfois difficile. Simon Le Baron, exemple avec cet échange que vous avez capté entre une mère et son fils.
La nuit est tombée depuis longtemps déjà, quand Evan confie enfin qu'il a vu la professeure blessée.
Voilà, je sors d'Histoire Géo et je la vois à terre avec du sang partout, assis contre une porte. Quand même, c'est choquant.
Sa mère, Christelle, se fige, les yeux humides.
Donc là, je découvre des choses.
Ils ont parlé pourtant un bon moment dans l'après-midi.
Il vient de raconter plein de choses qu'il ne m'avait pas dites, donc, alors qu'il me parle facilement. Je ne savais pas qu'il avait vu la professeure après l'agression, donc ça, c'est bien. Du coup, il a pu se libérer aussi et parler. Donc, c'est nécessaire, je pense, que les enfants ils sortent les choses pour justement pas que ça reste à l'intérieur.
Derrière ce sourire timide d'un adolescent qui ne se rend pas encore tout à fait compte de ce qu'il vient de vivre.
Moi, ça va. Hein. J'ai vu deux élèves quand même qui ont pleuré pas mal de temps hein, dans la cour.
Toi, t'as pas trop pleuré?
Non, je me retenais de pleurer, mais bon, j'ai quand même envie de pleurer.
Christelle dit que son portable à elle n'arrête pas de sonner. Les parents aussi ont besoin de parler, de comprendre comment ici cela a pu arriver.
Ça reste des adolescents en même temps, hein, donc un collège sans histoire, ça n'existe pas. Mais les pires problèmes qu'il y avait dans le collège, c'était les graffitis dans les toilettes, les casiers défoncés.
Des bagarres ou quoi, ok, mais au point de planter une prof, c'est quand même grave.
Mettre des mots sur le traumatisme, un long processus commence. Le ministre assure que la cellule psychologique restera en place le temps qu'il faudra.
Un témoignage recueilli par Simon Le Baron. Marine Le Pen sera-t-elle candidate à la présidentielle? Pourra-t-elle être candidate à la présidentielle? Tout dépend d'une décision de la Cour d'appel de Paris. C'était lors des réquisitions hier au procès de l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. 4 ans de prison, dont une année ferme, ont été requis sous bracelet électronique pour cette année ferme contre Marine Le Pen. 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité contre la patronne des députés du Rassemblement National. Le parquet général, en revanche, ne requiert pas l'exécution immédiate de sa peine d'inéligibilité comme en première instance, mais en l'état, Pierrick Bonneau, ça ne changerait rien pour son avenir politique.
5h30 de réquisition, Marine Le Pen clouée sur sa chaise face à la cour comprend peu à peu que les avocats généraux vont prendre la même direction que les juges de première instance. Alors à la sortie de la salle d'audience, la patronne des députés du RN a la mine des mauvais jours. « Je ne suis pas surprise », lâche-t-elle à une poignée de journalistes, « mais ce ne sont que des réquisitions, ce n'est pas la décision finale, il reste encore 3 mois. » 3 mois pour que la cour change de braquet, car en l'état, et même sans exécution immédiate de sa peine d'inéligibilité, la triple candidate à la présidentielle ne pourrait pas concourir en 2027, d'autant moins avec un bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne. Fataliste, presque résignée ces derniers jours, Marine Le Pen répète loin des micros et caméras qu'elle ne reprendra pas la parole d'ici la fin du procès la semaine prochaine, comme si les dés étaient déjà jetés.
Merci Pierrick Bonneau pour ces précisions. France Info 5h04, 14 migrants sont morts ces dernières heures au large de la Grèce dans la collision entre leur embarcation et un bateau des gardes-côtes grecs. Pour l'heure, les autorités à Athènes ne donnent pas plus de précisions sur les circonstances de ce drame. 2 jeunes ont été tués dans une frappe russe sur Zaporijja en Ukraine et des bombardements massifs ont eu lieu à nouveau sur des centrales sur le système énergétique du pays. pays, alors que l'hiver est très rigoureux, les températures avoisinent les moins 20 degrés en ce moment et ces frappes, elles privent une partie des Ukrainiens de chauffage. Et c'est dans ce contexte que les Russes et les Ukrainiens doivent se retrouver à nouveau pour des pourparlers. C'est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, un deuxième cycle de discussions qui aura lieu sous médiation des États-Unis. Le premier round avait suscité quelques espoirs, mais il semble s'être évaporé depuis, Sylvain Tronchet.
Lundi encore, Volodymyr Zelensky saluait des mesures de désescalade. La Russie semblait avoir suspendu les attaques sur le système énergétique ukrainien à la demande des États-Unis, et cela pouvait représenter un mince espoir d'avancer avant une nouvelle séance de négociations. Hier, à la veille de la reprise des pourparlers, Moscou a lancé son raid le plus massif de l'année sur l'Ukraine, au plus fort de la vague de froid. De quoi poser une nouvelle fois la question, la Russie peut-elle accepter une paix négociée? D'autant que les signaux envoyés depuis Moscou ces derniers jours n'incite pas à l'optimisme. Le Kremlin semble toujours aussi inflexible sur la question des territoires et réclame le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass. Mais même si cette question était résolue, s'opposerait alors celle des garanties de sécurité. La diplomatie russe a rappelé hier qu'elle s'opposait à la présence de troupes occidentales en Ukraine, comme l'a proposé hier le secrétaire général de l'OTAN devant le Parlement ukrainien. Il semble n'y avoir que Donald Trump pour attendre de bonnes nouvelles de ces négociations.
Sylvain Tronchet, correspondant à Moscou de France Info. Qui, pour reprendre les actifs de Brandt, le fleuron de l'électroménager français qui a été liquidé en décembre dernier, 36 offres de reprise des actifs ont été déposées, certaines portées par de grandes enseignes de la grande distribution. Alors, que propose précisément chacun de ces acteurs, Vincent Giraldo ?
Sur les 36 offres de reprise, la plupart des candidats s'intéressent aux stocks et aux marques du groupe. Parmi eux, on trouve la Fnac Darty qui propose près de 3 millions d'euros pour racheter des marques, mais aussi un énorme stock de plus de 170 000 produits. Le déstockeur Noz a fait aussi une offre. Un fabricant polonais d'électroménager, Amica, veut lui aussi acquérir des marques du groupe. Il met sur la table 2,5 millions d'euros. Le cuisiniste Mobalpa, lui, veut acheter Sauter pour 500 000 euros. Parmi toutes ces offres, on notera que seuls 4 proposent de reprendre des salariés. Et parmi elles, il y a celle de Stéphane Français, à travers Metavisio, qui s'intéresse à l'usine de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans. Avec des partenaires, il propose 4 millions d'euros, mais on ne connaît pas le nombre de salariés potentiellement repris. Enfin, la commune de Cergy-Pontoise et la région d'Île-de-France avancent 15 millions d'euros pour reprendre les actifs du site de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise pour y produire de l'électroménager en conservant 85 salariés sur la centaine que compte le site.
Vincent Giraldo d'ici Orléans pour France Info, et c'est le tribunal des affaires économiques de Nanterre qui doit trancher. Sa décision n'est pas attendue avant au moins 10 jours. L'OM redresse la barre après son élimination à assez humiliante, disons-le, de la Ligue des Champions la semaine dernière. Eh bien, le club marseillais s'est qualifié cette fois pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'était au stade Vélodrome, Jean-Pierre Blimaud, en battant Rennes 3-0.
Sans être explosive, l'ambiance était pesante. Les joueurs ont découvert des banderoles explicites avant le match. Une bonne heure et demie plus tard, Damien, supporter, ressort du Vélodrome plutôt soulagé.
Il fallait qu'ils réagissent quoi qu'il arrive, parce que les supporters ont été gentils ce soir. Auparavant, ça n'aurait pas du tout passé comme ça, je pense. Donc c'est un soulagement quand même.
C'est Amine Gouiri qui a tout de suite montré la voie en ouvrant le score pour Marseille.
C'est vrai qu'il y a eu des banderoles, mais on savait qu'ils allaient pousser. Ce but au début de match, il nous a fait énormément bien à eux et à nous. Et après ce but-là, franchement, je me faisais pas de doute sur la suite du match.
La réunion qui a permis aux supporters et aux joueurs de dialoguer lundi soir a sans doute été salutaire, estime pour sa part Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué le troisième but.
C'était bien aussi de rencontrer les supporters pour comprendre un peu comment fonctionne Marseille, tout simplement. Et peut-être que, justement, en se rendant compte que les gens des fois viennent au stade et parfois certains galèrent, c'était une bonne chose pour tout le monde.
Et voilà Marseille en quart de finale de la Coupe de France, une compétition à laquelle les supporters comme Aurélie pensent de plus en plus pour sauver la saison de l'OM.
Même en tant que Marseillaise, on est toujours ambitieux et on espère finir en finale.
Si l'OM a d'abord intérêt à finir sur le podium de la Ligue 1 pour retrouver la Ligue des Champions, cette Coupe de France, qui échappe au club depuis 37 ans, commence à trotter dans les têtes.
Et dans ces huitièmes de finale de la Coupe de France de foot, victoire aussi 3-0 de Reims contre Le Mans. À suivre aujourd'hui d'autres matchs, Nice-Montpellier, Lyon-Laval, Lorient-Paris-FC ou encore Toulouse-Amiens. Ce sera à 20h30 à suivre sur France Info. Et puis l'actu sportive aujourd'hui, c'est évidemment les JO, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Cortina, la cérémonie d'ouverture. C'est vendredi soir, mais des épreuves sont prévues dès aujourd'hui. Le tour préliminaire du tournoi de curling. Sortez votre balai, Christine Peignard. À 5h09, c'est l'heure de votre météo avec le soleil qui revient, oui. Mais alors par le nord cette
fois. Voilà, le ciel a été balayé en quelque sorte aussi. Donc ce qu'on retiendra, c'est ça, c'est ce retour du soleil au nord, Normandie, sur Paris, jusqu'au nord, hein, les Hauts-de-France, près des frontières du nord et du nord-est. De nouvelles pluies abordent déjà les côtes atlantiques. Et puis dans le sud, hein, on a le vent marin qui continue de pousser un peu les nuages sur le Languedoc, la basse vallée du Rhône, donnant quelques averses jusqu'aux Cévennes. Et un orage n'est pas exclu d'ailleurs du côté de Toulon ce matin.
Et on surveillera ça avec vous. Merci beaucoup Christine Peña. Il est 5h10.
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, journée spéciale en direct de Lyon sur France Info.
Traitement, parcours de soins, comment mieux vivre avec la maladie.
Jeunes patients, comment limiter les séquelles.
Retour au travail, quelle organisation.
Toute la journée en direct du centre Léon Bérard, spécialisé dans le traitement du cancer à Lyon. Reportage et invité.
Mieux vivre avec un cancer, journée spéciale en direct de Lyon sur France Info.
Et justement, dans cette journée spéciale, rendez-vous dans 10 minutes, nous serons avec des jeunes malades. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes, à être touchés par des cancers. Et pour cela, on crée maintenant des parcours dédiés pour mieux les prendre en charge. Mais d'abord, nous sommes à Sanary-sur-Mer.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Après l'agression au couteau d'une enseignante dans un collège hier dans cette ville du Var, agression commise par un élève de 3e, l'un de ses élèves, le pronostic vital a été engagé. L'enseignante est désormais dans un état stable après avoir été opérée à l'hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon. L'élève lui est en garde à vue. La piste du ressentiment est pour l'heure privilégiée. Il avait présenté d'ailleurs un couteau visiblement à certains de ses camarades ces derniers jours. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, s'est rendu dans ce collège pour dire son soutien à l'équipe éducative du collège et aux élèves choqués.
C'est avec évidemment une très grande douleur que je m'adresse à vous, parce que une de nos professeurs d'art plastique, vous le savez, a été victime aujourd'hui d'une tentative d'assassinat par un de ses élèves, qui l'a poignardé. Elle est actuellement soignée à l'hôpital militaire de Toulon. Si je suis venu, c'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais l'éducation nationale, c'est comme un corps. Et chaque fois qu'on touche une partie du corps, c'est tout le corps qui réagit. Et ce que j'ai voulu dire ce soir à la principale et aux équipes, c'est qu'avec moi, c'est comme s'il y avait 1 200 000 collègues venus pour soutenir non seulement évidemment notre collègue victime de ce crime, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative qui est évidemment très très traumatisée par ce qui s'est passé, et les élèves. Le troisième élément que je voudrais vous partager avec vous, c'est l'extraordinaire sang-froid avec lequel les équipes ici ont réagi. Les collègues qui sont venus en aide à notre professeur attaqué, la façon dont les élèves ont été sécurisés, les services de police et de secours qui sont arrivés sans délai, l'équipe, la cellule psychologique académique et les équipes mobiles de sécurité académique qui sont arrivées dans les plus brefs délais, qui ont permis, avant qu'ils quittent l'établissement, aux élèves de déjà pouvoir rencontrer les psychologues. Tout ceci témoigne d'une organisation qui a été, d'une réaction qui ont été objectivement remarquables. Et dans un établissement qui n'était pas connu pour connaître des questions de climat scolaire. On est bien sur un acte isolé dans un établissement qui, au contraire, est plutôt regardé comme un établissement exemplaire en termes de climat scolaire.
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, qui était donc en déplacement dans ce collège de Sanary, près de Toulon, où a été agressée au couteau une enseignante. Nous l'entendions d'ailleurs, nous entendions les mots du ministre. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les enseignants qui ont été confrontés, pour certains, à des images traumatisantes. Certains élèves ont assisté directement à la scène. Cette cellule psychologique, elle est indispensable, expliquait Hélène Romano, elle est docteur en psychopathologie.
C'est vraiment la priorité lorsque l'on intervient dans ce type de situation. Ce sont des événements traumatiques. Ils ont eu quelqu'un qui a essayé de tuer leur enseignant, possiblement avec la peur d'être eux-mêmes agressés. Donc la priorité, ce sont les élèves qui sont témoins, les témoins visuels. On sait que l'impact sensoriel, en plus le sang, c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a les cris, il y a le fait de voir le corps de leur enseignante au sol. Il y a toute cette ambiance-là qui peut véritablement marquer. L'impact sensoriel est souvent à haut risque de conduire à des troubles post-traumatiques dans le temps. Donc la priorité, ce sont les témoins visuels. En psy d'urgence, on parle d'impliquer, les impliquer directs, vérifier qu'ils n'ont pas de manifestation de troubles qui pourraient les mettre en danger. Au niveau médico-psychologique, on a des situations de stress dépassées, des gens qui restent prostrés, qui vont partir dans tous les sens, qui vont continuer de faire comme si de rien n'était. Ça, c'est des signes d'alerte. Et quand on intervient, l'urgence est de repérer des jeunes ou des adultes qui auraient ce type de manifestation totalement inadaptée pour les protéger, les prendre en charge de façon spécifique. L'intervention médico-psychologique à T0, quand ça vient de se passer, c'est une écoute qu'on qualifie de transitionnelle. On est là pour expliquer les secours, pour protéger bien évidemment ses élèves, pour respecter la personne qui est blessée et respecter son corps, pour préserver la scène qui peut être très impressionnante visuellement de tout impact sensoriel pour les jeunes et puis même pour les adultes de la communauté scolaire. Donc il y a tout ce travail-là, cet accompagnement qui est fait au temps T0. On est présent, on écoute les jeunes, on les informe. Pour ceux qui veulent parler, eh ben, on est là, on les écoute, mais on ne les force pas à parler. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on entend certaines fois, voilà, il y a des cellules d'écoute qui sont mises en place comme si les enfants étaient obligés de parler. Certainement que non. Et dans le temps, dans les jours qui suivent, on va mettre en place des dispositifs qui seront différents selon l'évolution. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes si l'enseignante malheureusement décède de ses blessures. Ça ne sera pas les mêmes si l'enseignante, je l'espère, parvient à faire face et à ne pas être gravement blessée, trop durement hospitalisée. Toutes ces conséquences-là sont importantes dans la vie d'un établissement scolaire.
Et on imagine aussi, Hélène Romano, que tout le monde n'est pas égal face à ce type d'événement. D'abord, comment est-ce qu'on repère des élèves éventuellement plus fragiles et quels sont les risques à plus ou moins long terme pour leur santé mentale?
Le repérage va se faire souvent auprès des jeunes qui ont vu, qui étaient présents, ou des adultes qui étaient présents et qui peuvent avoir ces réactions totalement inadaptées. Des jeunes qui restent complètement paralysés, qui font rien, des jeunes qui vont demander à aller en cours alors qu'il y a quand même un drame absolu qui s'est passé, ce qu'on appelle une conduite automatique, ou des jeunes qui vont fuir n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est vraiment le repérage que l'on fait, mais il faut pour ça avoir des intervenants spécialisés. Et on va aussi repérer certaines fois dans les récits, dans les propos, et puis dans les établissements scolaires, les enfants sont connus, les élèves sont connus. On peut savoir des jeunes qui ont un passif avec certaines fois des tentatives de suicide, des idées noires, des troubles très dépressifs. Il y a les jeunes qui étaient peut-être amis proches de l'agresseur, qui peuvent se dire « j'aurais peut-être pu empêcher, se culpabiliser ». Tout ça, c'est des éléments importants à repérer pour pouvoir prendre en charge de façon ajustée.
Il faut aussi peut-être parler du rôle des parents auprès de ces enfants. Quels sont les signaux qui doivent peut-être alerter les parents et que peuvent-ils faire aussi pour entourer au mieux leurs enfants quand il s'est passé ce genre de drame?
C'est une question très importante parce que les parents, on leur dit de faire attention, mais on leur dit pas forcément comment. Ce qui peut les aider, c'est quelque chose qui est en rupture comportementale avec l'habitude. Un enfant qui pouvait être très calme, qui tout d'un coup devient très agressif avec les autres, avec lui-même. Là, souvent, ce changement, les parents vont le repérer. Alors, ils repèrent plus les troubles qu'on appelle externalisés, où le jeune, tout d'un coup, est extrêmement bruyant dans sa manifestation de détresse psychique. Et on repère moins ceux qui vont s'isoler, entre autres derrière les jeux vidéo, entre autres via des conduites addictives, certaines fois qu'on ne va pas repérer tout de suite, et qui vont certaines fois plus aller en cours. Tous ces troubles-là, internalisés, on les repère souvent moins. Mais les parents ont aussi la possibilité, c'est essentiel de ne pas rester seul dans la communauté scolaire. Il y a des professionnels de santé scolaire. Alors là, c'est aussi un enjeu fondamental. Il faudrait enfin que les établissements scolaires puissent avoir chacun un médecin, chacun une infirmière, chacun un psychologue, chacun une assistante sociale, alors qu'actuellement, il y en a un pour 5-6 établissements. Mmh. Ça n'est pas possible dans le contexte actuel, pour pouvoir permettre aux parents, lorsqu'ils ont des doutes, d'être aidés, d'être soutenus. Et puis, si leur enfant, leur ado, a l'air de ne rien manifester face à un drame pareil, ça doit aussi les alerter.
La docteure en psychopathologie Hélène Romano, qui répondait aux questions de Julien Langlais sur France Info après cette agression, on le rappelle, au couteau d'une enseignante dans un collège de Sanary dans le Var, agression commise par l'un de ses élèves. De plus en plus de cancers touchent les jeunes. Dans un instant, rencontre justement avec une jeune malade qui peut désormais bénéficier d'un parcours dédié pour les plus jeunes. Reportage dans un instant.
Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20 avec vous, c'est l'heure de l'info en une minute et à la une, c'est réquisition du parquet lors du procès en appel du FN.
Le parquet qui requiert 4 ans de prison dont une année ferme sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen pour cette affaire des assistants d'eurodéputés. Pas d'exécution immédiate requise cette fois, les plaidoiries de la défense débutent aujourd'hui. La décision de justice est attendue à l'été. L'enseignante agressée hier au couteau à Savary est toujours gravement blessé, mais dans un état stable. Un collégien de 14 ans l'a poignardé. Il a été entendu par la police dès hier. Aucune connotation religieuse ou politique à ce stade. Selon les premiers éléments de l'enquête, le collégien avait un ressentiment contre l'enseignante et venait depuis plusieurs jours avec un couteau. Ils ont accepté des cadeaux comme de l'alcool et de la maroquinerie. 14 pharmaciens de Seine-Maritime ont été condamnés à des peines d'amende allant de 3 000 à 16 000 euros pour avoir accepté des avantages de la part des laboratoires Urgo. Et puis l'OM se rassure un peu et s'impose en 8e de finale de la Coupe de France de foot. Victoire 3-0 des Marseillais contre Rennes. Reims se qualifie aussi. Ce soir, Toulouse est contre Amiens. Lyon joue Angers et Lorient est contre le Paris FC.
France Info.
Journée spéciale sur France Info aujourd'hui. Mieux vivre avec le cancer et un constat inquiétant. Le nombre de nouveaux cas chez ceux qui ont moins de 50 ans a bondi depuis une trentaine d'années. Plus 80% des cancers qui touchent même parfois des adultes très jeunes, voire même des adolescents. Pour mieux les prendre en charge, des parcours spécifiques de soins ont donc été mis en place pour eux dans une trentaine d'hôpitaux, comme ici au Centre de lutte contre le cancer de Lyon. Anne Lordanier, vous avez rencontré une jeune patiente et son infirmière.
Bonjour.
Coucou Mathilde, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, Mathilde a noué des liens très forts avec Maude, l'une des trois infirmières de coordination du DAJAC. Ici, c'est comme cela qu'on appelle le dispositif adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. L'infirmière était là il y a 2 ans quand elle a appris qu'elle avait un sarcome d'Ewing, une tumeur dans l'os de sa cuisse. Et c'est son numéro que Mathilde a composé quand elle a appris qu'elle faisait une récidive.
Quand je suis allée aux urgences et que j'avais l'impression que j'étais en train de faire une rechute, c'est les premières que j'ai appelées. Et c'est elles qui ont pu faire le relais quand moi, j'étais déjà un petit peu dépassée par les événements parce que je pense que j'avais commencé à comprendre ce qui était en train de se passer. Et du coup, bah, c'est elles aussi qui ont permis que mon collègue réagisse aussi vite et qu'on puisse directement embrayer sur la suite des examens pour essayer de voir ce qui était en train de se passer. Elles sont toujours à disposition et moi, ça me permet d'avoir un relais et une boussole un peu dans ce parcours qui est quand même... Il y a beaucoup d'intervenants, il se passe beaucoup de choses et donc c'est bien d'avoir à disposition des personnes aussi incroyables pour nous accompagner.
Pour accompagner ces jeunes atteints de cancer, il y a systématiquement une consultation avec un psychologue, une assistante sociale et une consultation fertilité pour leur proposer de conserver leurs gamètes. Les infirmières de coordination, comme Maud Chermin, gèrent les soins.
C'est nous qui récupérons les prises de sang qui sont faites en extérieur, qui les analysons, qui alertons le médecin si on voit que quelque chose ne va pas. C'est vrai que l'idée, c'est d'avoir vraiment, comme disait Mathilde, une personne référence dans le parcours de soins. On n'a pas forcément toujours toutes les réponses à toutes les questions, mais on redirige vers les personnes qui peuvent leur répondre.
L'infirmière fait aussi très attention au bien-être de Mathilde.
Et tu arrives à faire quand même un petit peu d'autres choses pour toi, je veux dire, plus loisirs, des choses qui te font plaisir.
Ouais.
J'ai prévu des trucs avec mes copines et tout ça, donc ça va être bien.
240 jeunes atteints de cancer bénéficient de ce suivi spécialisé au centre Léon Bérard.
Témoignage recueilli par Anne Lordanier pour France Info. Il est 5h23, partons pour le monde d'Élodie.
Bonjour Hassan Hadi. Ouais. Vous êtes réalisateur irakien, vous avez écrit et réalisé le film Le gâteau du président, d'ores et déjà désigné caméra d'or au 78e Festival de Cannes, donc en 2025. C'est d'ailleurs la première fois qu'un film irakien reçoit un prix au Festival de Cannes. Vous nous plongez en Irak, on est en 1990, lorsque des sanctions sévères de l'ONU ont plongé le peuple irakien dans une grave crise alimentaire et sanitaire. Malgré tout, une tradition décidée par le dictateur Saddam Hussein n'a jamais cessé, celle de désigner un enfant dans chaque classe et école 2 jours avant pour réaliser le gâteau d'anniversaire du président. Nous sommes donc le 26 avril 90 et on découvre cette petite fille qui s'appelle Lamia. C'est elle qui va être choisie par tirage au sort par son professeur. Ce film n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie que vous avez vécue vous-même, même si vous n'avez jamais été désigné pour le gâteau, mais pour amener des fleurs. C'était important de trouver la bonne histoire pour raconter ce qui est difficilement racontable.
Well, thank you for having me.
C'était vraiment un moment très crucial de l'histoire de l'Irak. 15 ans de sanctions, de dictature et de guerre. Et personne n'a vraiment exploré ça au cinéma. Pour moi, ça m'a beaucoup étonné. Et pour mon premier film, j'ai essayé de me pencher sur des personnages, des lieux que je connaissais. Pour moi, c'est une histoire qui se raconte d'un point de vue d'enfant.
Vous n'avez jamais mis les pieds dans un cinéma durant toute votre enfance parce que les cinémas étaient fermés. Ils étaient même souvent d'ailleurs transformés en entrepôts. Comment vous aviez accès aux films? Comment est venu cette envie de faire du cinéma?
En fait, j'achetais des vidéos clandestines et quand on était à la maison, j'essayais de regarder des vidéos quand ma famille dormait et on avait juste un magnétoscope. Donc, je jouais une des cassettes et là, ça m'ouvrait à un autre monde complet. C'était vraiment une programmation de Tarkovsky à Godzilla, à Kurosawa et tout ce qu'il y avait entre les deux. C'était très atypique, mais j'ai développé une passion pour la cinéphilie, le fait de regarder des films. Et finalement, j'ai une flamme en moi qui faisait que je restais éveillée pour ensuite partager mes impressions sur les films. Mais je ne savais pas forcément que je voudrais être réalisateur à ce moment-là. Je savais juste que j'aimais regarder des films.
On découvre la puissance de ces enfants dans ce film. On comprend qu'à travers le regard vit finalement votre regard d'enfant. C'était important de montrer cette histoire du point de vue de ces enfants avec toute leur insouciance, leur naïveté et surtout leur courage.
Oui, parce que l'idée c'était de transporter le public en 1990 pour leur montrer ce que c'était la vie en Irak dans ces conditions-là. Et finalement c'était ça le point de vue le plus objectif, pour montrer comment était la vie quotidienne, sans point de vue, sans politique. Et à l'époque où se situe le film, c'était vraiment comme dans un trou noir. On ne savait pas exactement ce qui se passait en Irak. Il y avait la séparation, le boycott de la communauté internationale et notre dictateur violent qui nous a séparés du reste du monde.
Elle ressemblait à quoi, cette enfance, alors?
On se cachait beaucoup sous les escaliers, on se réveillait au son des sirènes, on se met en état d'hypervigilance en permanence. Mais en même temps, en tant qu'enfant, on a ce pouvoir incroyable de tout transformer en jeu, en magie. Par exemple, les fresques de Saddam. Quand j'étais enfant, sur le trajet de l'école, je jouais dans ma tête un jeu avec cette fresque. Et là, je me disais, ah tiens, Saddam, il sourit pas, il est en colère contre moi. On a cette capacité, quand on est enfant, à supporter la tragédie et le danger.
Chaque matin, un texte arrivait dans la cour d'école. Il était lu par l'un des enfants dans cette cour. Ils chantent ensemble, ils vaincront par leur sang et par leur âme. Pour Saddam, par notre sang, par notre âme, nous nous sacrifions pour toi, Saddam. Ça fait froid dans le dos. Est-ce qu'on arrive à les oublier, ces termes-là?
On peut y travailler, à l'oublier. Je pense que les traces seront toujours un petit peu là, mais ça peut paraître idiot, mais en fait, c'est toujours quelque chose avec lequel on se débat. Ça prend un temps fou de reconstruire une nation et de la libérer des traces de la dictature et ce que ça a fait à la société.
Je voudrais qu'on termine sur l'espoir qui est véhiculé par ce film. Le désespoir a toujours cette petite lumière qui l'attend au bout du tunnel et qui rend les choses possibles et qui balaie d'un revers de main le côté tragique. C'était ça, c'était d'abord de créer un film d'espoir.
Oui, on dit que la vie est très étroite s'il n'y a pas l'espace pour l'espoir. Et c'est vraiment ça le message du film. Et j'espère vraiment que le public qui regardera ce film l'aura en tête, que malgré tout, on peut trouver la joie et une façon d'avoir un espoir pour l'avenir.
Merci beaucoup, Hassan Hadi, déjà de votre courage. Merci pour ce film, Le gâteau du président, disponible sur tous les écrans. Merci infiniment d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info.
Thank you for having me.
Et merci à vous, Élodie Suigo. Le Monde d'Élodie, c'est à retrouver sur l'application Radio France.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, ces derniers jours, il y avait un défilé de perturbations. Oui. Eh bien, il fait une petite pause.
Oui, alors vraiment, toute petite pause, très courte, avec le retour des éclaircies. Déjà hier, hein, sur la moitié sud, le soleil était au rendez-vous, alors que aujourd'hui, c'est plutôt au nord qu'il s'installe, ce soleil. Belles éclaircies sur les Hauts-de-France jusqu'à Paris, la Normandie, jusqu'au nord-est. Plus on va vers le sud et plus on retrouve ces entrées maritimes, là, poussées par ce vent de sud, toujours soutenu, qui donne quelques petites pluies entre le sud de la région PACA et les Cévennes. Et puis nous avons également sur l'arc atlantique pas mal de nuages et de la pluie déjà entre Charente et sud-ouest là qui circulent, et elles s'étendront jusqu'au Limousin, jusqu'au Poitou cet après-midi. Sur les deux tiers ouest, d'ici la fin de journée, nous aurons le retour déjà de ces pluies. D'ailleurs, demain, de nouvelles pluies vont traverser le pays, donc c'est cette perturbation qui arrive. Vendredi, c'est le vent qui soufflera fort et qu'on surveillera avec un régime d'averse, hein, toujours, mais quelques éclaircies qui se mélangeront. Et puis, le week-end devrait être un peu plus calme et ensoleillé avant de redémarrer la semaine, lundi, sous les nuages et la pluie. On surveillera les sols saturés d'eau, hein. Ces cours d'eau qui continueront de grimper la semaine prochaine, bah oui, faisant craindre de nouvelles inondations tout au cours de la semaine prochaine, au moins jusqu'à mi-février. Nous avons ce défilé de perturbations qui se poursuit.
Merci beaucoup Christine Peña pour vos prévisions météo. Au programme d'ici 6h sur France Info, de l'inéligibilité à nouveau requise contre Marine Le Pen à son procès en appel, mais pas d'exécution provisoire réclamée. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? La candidature à la présidentielle de Marine Le Pen peut-elle encore être envisagée? Dossier complet avec le service politique de France Info dans 5 minutes. Et puis autre rendez-vous avec des garagistes qui sont de plus en plus nombreux à être victimes de piratage et ils se retrouvent parfois à devoir payer des fortunes. Ce sera à 6h moins le quart. Pour le moment, il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal. Bienvenue.
France Info. William Guécosta.
Fumer nuit gravement à votre santé, qu'en est-il pour le vapotage? L'ANSES, l'Agence Nationale de Santé, le dit dans une toute dernière étude, la cigarette électronique peut bien avoir des conséquences. 3000 études au total ont été compilées dans un rapport de 700 pages et il met en évidence des risques potentiels de cardiovasculaires, respiratoires ou même de cancer à cause de substances chimiques comme les aldéhydes. Julie-Marie Lecomte, cette étude, vous êtes allée la présenter à des vapoteurs.
Marion vient de casser sa cigarette électronique. Elle est déjà dans une boutique pour la remplacer parce qu'elle a craqué, racheté un paquet classique qu'elle cherche au fond de son sac.
Je suis Marie Poppins, ça.
Et elle veut le comparer avec une de ses fioles de liquide.
On voit la différence, il n'y a aucun message là, et là il y en a.
Mieux informer les consommateurs, c'est précisément l'une des recommandations de l'ANSES.
Méthylpyrimidinyl, benzoate de pyridine, c'est pas des aldéhydes.
Donc là du coup vous vous dites, si c'est sans aldéhydes, c'est pas dangereux.
Je me dis pas ça, mais je me dis que ça l'est moins.
Sauf que ce n'est pas le liquide, c'est le fait de le chauffer qui, par réaction chimique, produit des substances toxiques. Charbel ne le savait pas non plus.
Je le découvre, oui.
Mais ce père de famille relativise.
Vous respirez de l'air pollué là, vous risquez le cancer aussi.
Le vapotage, pas anodin. En fait, ces fumeurs ne se disent pas très surpris.
Parce que ça reste quand même des molécules qui vont au niveau de nos branches et c'est quand même de la chimie, ça reste toxique. On peut pas dire que c'est inoffensif.
Eux voient surtout les avantages.
Là, maintenant, je peux plus fumer une cigarette, ça me dégoûte.
Après 2 ans de vape, Marion prévoit de décrocher bientôt. Pour Charbel, c'est plus flou.
Si je peux, pourquoi pas. Mais bon, on a tous des vices.
L'ANSES est pourtant formel, vu les risques. La cigarette électronique doit rester un outil de sevrage.
France Info, reportage signé Julie-Marie Lecomte. La professeure d'art plastique attaquée hier au couteau par son élève à Sanary dans le Var a été hospitalisée avec un pronostic vital engagé. Elle a été opérée en fin de journée et son état est stable. Aux dernières nouvelles, l'adolescent, lui, est interrogé et les premiers éléments de l'enquête vont bien dans le sens d'un désir de s'en prendre à elle sur fond de ressentiment. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un enseignant est visé par un élève. La circulation des armes a d'ailleurs été identifiée comme un problème majeur par l'éducation nationale, Noémie Bonin, et elle a déjà mis en place différentes mesures.
Avec des opérations de fouilles aléatoires des sacs des élèves à l'entrée des établissements scolaires, mais ça ne peut être qu'une fois de temps en temps, car il faut mobiliser des équipes de police ou de gendarmerie. Les personnels de l'éducation nationale n'ont pas le droit de le faire. À ce jour, plus de 500 armes blanches ont été saisies lors de 12 000 contrôles menés entre fin mars et décembre 2025. Certains établissements ont par ailleurs installé des caméras de vidéosurveillance ou des portiques, mais qui là n'auraient pas empêché ce jeune à Sanary d'entrer avec un couteau, puisqu'il ne s'agit que de tourner tourniquets, impossible d'installer des dispositifs détecteurs de métaux comme ça existe dans les aéroports. Rien qu'en termes de flux, ce serait ingérable quand 1000 ou 1500 élèves arrivent le matin en même temps. Se pose enfin la question de la santé mentale et psychique des élèves. Là aussi, des mesures ont déjà été annoncées en juin dernier par le gouvernement, avec des référents censés être nommés dans chaque établissement. Mais les syndicats dénoncent un plan bricolé à la va-vite et surtout sans moyens financiers.
Merci Noémie Bonin. Je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, déclare Donald Trump après la publication de millions de nouveaux documents dans l'affaire Epstein par la justice américaine, du nom du criminel sexuel, une affaire qui embarrasse le président un temps proche du financier qui s'est suicidé en prison en 2019. En France, Jack Lang répète qu'il est tombé de l'armoire lorsqu'il a appris ses agissements. L'ex-ministre de la Culture est cité à nouveau dans les fichiers Epstein. Sa fille aussi, Caroline, ce qui l'a poussé à démissionner de la direction d'un syndicat de producteurs de cinéma. Elon Musk dénonce une attaque politique après des perquisitions dans les locaux français de son réseau social X. La justice française souhaite aussi l'entendre le 20 avril. X, de son côté, réfute catégoriquement d'avoir commis la moindre infraction. Les investigations portent sur de potentielles dérives de la plateforme soupçonnée de favoriser, entre autres, les opinions de son propriétaire. Et puis, c'est sans doute l'un des endroits les plus beaux de France, le pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées. Une candidature pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO a été officiellement déposée. C'est un lieu unique à plus de 2600 mètres d'altitude où l'on trouve un observatoire car le ciel y est très pur et l'on peut y admirer les étoiles comme quasiment nulle part ailleurs dans notre pays. Il est 5h35. Merci d'écouter France Info.
France Info. 5h-6h. William DeCosta.
Et revenons donc à ce moment crucial au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Les réquisitions qui avaient lieu hier contre, entre autres, Marine Le Pen. Pierrick Bonneau, service politique de France Info, vous étiez justement au palais de justice de Paris. Alors les peines qui ont été requises, eh bien, sont un peu moins lourdes qu'en première instance pour Marine Le Pen.
4 ans de prison, dont une année ferme, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité sans exécution immédiate. On va y revenir. Ce sont effectivement des réquisitions un peu plus clémentes que le jugement de première instance, puisque Marine Le Pen avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Dans le cas présent, si ces réquisitions sont suivies par la cour d'appel, eh bien, cette peine de prison d'un an ferme serait aménageable en bracelet électronique. Or, on imagine mal Marine Le Pen faire campagne avec un bracelet électronique. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est cette peine d'inéligibilité requise, c'est la même durée qu'en première instance, 5 ans, et ça nous amène bien après la présidentielle de 2027.
Alors 5 ans, mais sans exécution immédiate, Pierrick, qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, en fait, pas grand-chose, en tout cas pour l'avenir politique de Marine Le Pen. Pourquoi ? Eh bien, parce que si la Cour d'appel confirme cette peine, Marine Le Pen aura alors deux possibilités. Soit elle l'accepte et devra purger sa peine d'inéligibilité. Dans ce cas, elle ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Soit elle décide de faire un dernier recours, un recours devant la Cour de cassation. Et dans cet intervalle, eh bien, elle sera de nouveau éligible. Sauf que ça ne changera rien, puisque la présidentielle n'aura pas lieu dans cet intervalle. La présidentielle aura lieu après, puisque la Cour de cassation s'est déjà engagée à rendre sa décision rapidement et en tout état de cause avant l'échéance présidentielle de 2027. Ce qu'il faut donc retenir, c'est d'abord que ce ne sont que des réquisitions, ça ne présume en rien la décision de la Cour d'appel dans les prochains mois et que si la Cour d'appel venait à confirmer ces réquisitions, eh bien Marine Le Pen ne serait pas sauvée pour autant. Pour qu'elle puisse se présenter l'an prochain, il faudrait que la Cour de cassation, dernier étage de la fusée, si j'ose dire, revienne sur cette peine d'inéligibilité et on en est dans tous les cas encore très loin.
Alors Marine Le Pen sera-t-elle candidate ? On vous entendait Pierrick Bonneau, cela semble peu probable, mais il est trop tôt pour dire qu'elle ne se lancera pas en 2027, qu'elle ne le pourra pas. C'est ce que répète aussi Evelyne Cire-Martin. Elle est Cire-Marin, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
C'est la Cour d'appel qui prononcera la peine, donc on saura vraiment le résultat avant l'été. Pour l'instant, ce sont que des demandes du parquet. Et surtout, deuxièmement, la peine d'inéligibilité qui est demandée, c'est une peine qui peut être assortie d'une partie ferme et d'une partie sursis. C'est possible, ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, 5 ans fermes prononcés, mais la Cour d'appel fait ce qu'elle veut. Elle peut ne prononcer aucune peine d'inéligibilité, car à l'époque des faits, ça n'était pas obligatoire. Mais elle peut aussi augmenter ou mettre une peine inférieure. Bref, si elle prononce par exemple 5 ans d'inéligibilité, comme le parquet le lui demande, elle peut aussi dire dans ces 5 ans, il y a par exemple 18 mois fermes et le reste avec sursis. Ça voudrait dire que Madame Le Pen pourrait tout à fait se présenter. Vous voyez, c'est assez complexe. Quant à la peine d'emprisonnement qui est demandée, effectivement, elle est moindre que celle qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel. La peine qui est demandée, c'est 4 ans, dont 1 an qui serait sous bracelet électronique. Mais il est assez peu probable que la Cour d'appel ne réfléchisse pas au fait que dans l'affaire Fillon, Monsieur Fillon a été déclaré coupable à peu près des mêmes faits, hein, détournement de fonds publics, mais lui, avec un enrichissement personnel. Eh bien, Monsieur Fillon avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, par la Cour d'appel, mais la Cour de cassation a dit non, pour quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, c'est trop sévère, c'est peut-être pas assez proportionné, et finalement, par une autre Cour d'appel, il a été condamné à 4 ans avec sursis. Tout ça pour vous dire que Madame Le Pen, qui est à peu près dans le même cas, elle pourrait très bien ne pas être condamnée à une peine d'emprisonnement. La Cour d'appel verra, elle peut le faire quand même, mais elle risquerait de se heurter à la jurisprudence très récente de la Cour de cassation dans l'affaire Fillon. Donc, tout ça n'est pas du tout sûr. Et j'ajoute encore un élément d'incertitude, c'est que lorsque la Cour d'appel rendra son verdict avant l'été, encore faut-il, s'il y a une déclaration de culpabilité et des peines, bon, évidemment, Madame Le Pen et tout le monde fera un pourvoi en cassation. Il est suspensif, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il ne se passera rien. C'est comme s'il n'était pas ni déclaré coupable ni condamné. Et ensuite, la Cour de cassation, en janvier 2027, enfin, comme l'a dit le premier président de la Cour de cassation, sans doute en janvier 2027, rendra sa décision sur le droit. Et elle peut aussi dire qu'il y a un problème de droit et renvoyer encore l'affaire, auquel cas Madame Le Pen pourrait peut-être se présenter quand même à la présidentielle, parce que évidemment s'il y a encore un renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel comme ça s'est passé dans l'affaire Fillon, alors là ça sera pour 2028, et donc il est possible, c'est vraiment beaucoup d'hypothèses, mais que Madame Le Pen puisse se présenter, même peut-être être élue, en ayant été déclaré coupable par des juridictions. Et là, il y a une immunité présidentielle pendant 5 ans. Et donc, c'est reporté à 5 ans. Vous voyez, tout est quand même très, très ouvert et très incertain.
C'est l'analyse que vous faites de ces réquisitions, même si, Evelyne Sirmarin, elles sont peu ou prou, quasiment, on va dire, les mêmes hein, qu'en première instance.
Tout à fait. Effectivement, j'ai regardé les peines prononcées en première instance. Alors, notons qu'en première instance, d'ailleurs, le tribunal correctionnel avait suivi les réquisitions du parquet pratiquement à la lettre. Donc, c'est pas pour autant que ça se passera pareil hein, à la cour d'appel. Ça veut pas dire que ce qu'a demandé le parquet, ça sera les peines prononcées. Mais, effectivement, ce qui est demandé aujourd'hui par le parquet, c'est en gros les peines qui ont été prononcées en première instance, un petit peu moins parfois, comme vous l'avez très justement dit, des peines d'emprisonnement qui ont été demandées ont été un peu baissées, mais pour les peines d'inéligibilité, ce sont les mêmes peines qui sont demandées, 3 ans pour Monsieur Nicolas Bett, 3 ans pour Monsieur, pardon, 1 an pour Monsieur O'Doul, ou 3 ans pour Monsieur Alliot. Vous voyez, c'est les mêmes peines que celles qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel. Mais tout est vraiment très incertain parce que eux aussi peuvent avoir une peine d'inéligibilité, certes, mais avec une partie ferme et une partie avec sursis, auquel cas ils pourraient tout à fait être à nouveau éligibles sur les rangs beaucoup plus vite que prévu si ces peines sont prononcées. C'est assez complexe.
On peut néanmoins en déduire, Evelyne Sirmarin, que le parquet général a fait la même analyse finalement de cette affaire que lors du premier procès en correctionnel.
Oui, tout à fait. Le parquet général a fait en gros la même analyse, si ce n'est que la défense du Rassemblement national, des députés, des assistants, a été une défense qui a été beaucoup moins agressive. En gros, ils ont dit « nous sommes coupables, mais pas responsables ». C'est-à-dire que nous sommes coupables. Bon, on apprend que c'est un délit de détourner les fonds du Parlement européen pour payer le personnel du Rassemblement national. nationale, on l'apprend bien. Deuxièmement, c'est vrai que c'est cet argent, c'est-à-dire en tout 4,3 millions d'euros ont été utilisés pour finalement faire fonctionner notre parti et pas faire fonctionner le Parlement européen, enfin alimenter les députés en texte, etc. Bon, on apprend tout ça, mais bon, c'est une on n'a pas voulu, on est de bonne foi et le Parlement européen aurait dû nous prévenir que c'était interdit. Alors bon, c'est pas sûr, si vous voulez, que la Cour d'appel considère que cet argument va écarter la culpabilité, évidemment, de ces personnes qui sont pour l'instant prévenues. C'est comme si un peu, quand vous ne omettez de déclarer vos impôts, vous disiez « Ah oui, mais l'administration fiscale ne m'a pas dit qu'il fallait déclarer les impôts ». Voilà, bon. Mais c'est vrai que c'est une défense qui est beaucoup plus « soft », entre guillemets. Ils ont dit aussi que ce n'était pas des emplois fictifs. Ce qui est juste, c'est que ces personnes ont travaillé, mais elles ont travaillé en étant payées par le Parlement européen et elles ont travaillé pour le Rassemblement national. Et enfin, il n'y a pas d'enrichissement personnel, manifestement, à la différence de l'affaire Fillon. Donc, ce sont des éléments qui peuvent amener la Cour aussi, et cette défense peut amener la Cour à, disons, être plus clément que le tribunal. Parce que il y a quand même une sorte de pédagogie qui a été faite et manifestement, les prévenus ont compris qu'ils avaient commis des délits.
La magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Evelyne Cyr-Marin, qui répondait à Julien Longlet sur France Info. Des petits garagistes visés par des pirates informatiques, vous allez l'entendre dans un instant, ça peut leur coûter très très cher, témoignage d'une patronne dans une minute qui doit régler 146 000 euros.
France Info, 5h-6h.
Avant cela, un nouveau tour complet de l'actualité à 6h moins le quart avec Maureen Suignard et à la une, Maureen, le ministre de l'Éducation nationale qui parle d'un acte isolé.
Après cette agression au couteau à Sanary dans le Var, un élève de 14 ans qui poignarde sa professeure d'art plastique, elle est gravement blessée mais dans un état stable. L'adolescent a été interpellé avant d'être entendu par les enquêteurs. Il dit regretter son geste. Les enquêteurs estiment qu'il avait nourri du ressentiment contre elle, mais qu'il n'y a pas de connotation religieuse ou politique. Nestlé rappelle un nouveau lot de lait infantile de la marque Gigoz, du lait OptiPro Relais 1. La toxine céréulide est présente dans ce lait en poudre et peut entraîner nausées et vomissements chez les enfants. 17 personnes sont mortes à Marseille à cause du narco-banditisme l'année dernière. Bilan du préfet des Bouches-du-Rhône hier, c'est moins qu'en 2024. Mais le préfet se dit estomaqué par le nombre de consommateurs de drogue lors des contrôles. Et puis la police portuaire grecque annonce la mort de 14 personnes, des migrants qui se trouvaient sur un bateau. Ils ont été tués lors d'une collision avec un autre bateau, celui-là des gardes-côtes grecs en mer Égée.
Info. Les hackers à l'assaut des garages, attaque informatique d'un nouveau genre, des pirates, exploitent désormais les failles du SIV, le système d'immatriculation des véhicules, et ils pénètrent dans le compte de garagistes pour créer des centaines, voire même des milliers de cartes grises en leur nom, sans doute pour blanchir des voitures qui ont été volées. Au moins une vingtaine de garages en France ont été victimes de ces piratages, et ce sont souvent des petits garages de campagne, et avec à la clé une catastrophe pour eux, car l'État leur demande de payer les cartes grises. Et les sommes sont astronomiques, Marc Bertrand.
C'est en ouvrant la pièce jointe d'un email pour une voiture à vendre que Marilyn a fait entrer les pirates dans le garage familial qu'elle tient depuis 10 ans avec son mari à Saint-Rémy-sur-Orne, un village du Calvados. Les hackers ont pris le contrôle de son ordinateur.
Moi, au départ, je n'ai pas vu que j'avais été piraté. Donc un jour, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu un prélèvement de 146 000 euros. Sachant que moi, ce mois-là, je n'avais fait que 640 euros de carte grise. Donc là, j'ai compris tout de suite que j'avais été piratée au niveau de mon habilitation. Ce qui veut dire que j'ai une personne qui a fait 930 cartes grises, qui sont parties au Guadeloupe, qui sont parties en Corse, qui sont parties sur toute la France. Je ne vais pas avoir des gens de Martinique ou de Guadeloupe qui sont venus dans mon garage à Saint-Rémy-sur-Orne, où on est 1000 habitants, quoi. C'est pas possible.
Marilyn a porté plainte et pourtant, l'État lui demande de payer les 146 000 euros qui correspondent aux taxes pour les cartes grises que le pirate a créées.
Là, aujourd'hui, il faut une décision de justice qui nous innocente pour ne pas payer cette somme-là. Comme c'est notre agrément, on est responsable, c'est à nous de payer.
Et vous pouvez payer ?
Non. Donc, c'est-à-dire qu'on perd notre garage, mais on perd notre maison. On ne sait même pas si dans un an, on sera toujours ouvert.
même nos salariés, hein, même eux, ils se disent, dans un an, on peut être dehors, quoi.
La Fédération nationale de l'automobile, qui représente les garagistes, a recensé 22 garages piratés partout en France. Il y en a pour 3 millions d'euros de préjudice. Son vice-président, Bruno Choix, pointe du doigt le système d'immatriculation en ligne des véhicules, pas du tout sécurisé selon lui.
Quand vous voyez que la moindre transaction vous faites avec une banque, on vous demande un code avec une double authentification, que là on vous demande rien, c'est juste un code à quatre chiffres, c'est tout. Il n'y a rien de plus simple à pirater, quoi. Donc il faut arriver à sécuriser ce site, mais très très rapidement, que ça n'arrive plus, mais qu'ils prennent en considération que ce n'est pas de la faute des garages, quoi. C'est pas possible. Alors il y a le préjudice des garages, mais qui dit que les véhicules ne sont pas vendus entre deux avec des fausses cartes grises. Et je pense qu'il y a du trafic derrière de véhicules revendus, peut-être exportés ou autres, on n'en sait rien. Il faut trouver d'où ça part, quoi, en fait. Il faut trouver la source.
Il a écrit au gouvernement pour lui demander d'annuler les dettes des garages. Sinon, dit-il, beaucoup de garages en France risquent d'arrêter d'immatriculer des véhicules. Ce sera tout simplement trop risqué.
Témoignage au micro France Info de Marc Bertrand. Elon Musk va-t-il répondre à la justice française ? Le milliardaire est convoqué le 20 avril prochain dans le cadre d'une enquête sur de potentielles dérives de son réseau social X. Les locaux français ont d'ailleurs été perquisitionnés hier. En tout cas, le propriétaire de la plateforme dénonce une attaque politique et X parle d'un acte judiciaire abusif. La justice, elle soupçonne X de favoriser les infos qui sont favorables à l'idéologie d'Elon Musk. Alors, pourquoi ces perquisitions, pourquoi le convoquer? Voilà l'analyse de David Chavalarias, il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des réseaux sociaux.
C'est un petit peu la suite logique du refus de X et Elon Musk de, à la fois de respecter les lois françaises et européennes et de donner suite aux demandes de la justice. Donc au bout d'un moment, eh bien, la justice lance des perquisitions.
En quoi le réseau X ne respecte pas la loi? Qu'est-ce qui lui est reproché?
Il y a plusieurs problèmes. Donc, ils ont été mentionnés d'ailleurs en introduction. Il y a la diffusion de propos négationnistes, le soupçon de diffusion de contenu pédopornographique. Il faut savoir aussi que X ne respecte pas la loi européenne, notamment une loi qui s'appelle le DSA, qui permet en fait à la fois aux chercheurs et aux institutions d'étudier le fonctionnement d'une plateforme pour vérifier qu'il n'y a pas de distorsion du débat public. Il y a donc tout un ensemble de choses qui sont déjà hors la loi. Et puis par ailleurs, il y a un ensemble d'agissements de X, notamment par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni, où on voit que Elon Musk et X utilisent leur plateforme pour faire d'une certaine manière de l'ingérence dans la politique européenne.
Et donc, à donner des consignes de vote à certaines élections, c'est ça?
Alors après, il y a d'autres problèmes éventuellement. Donc avec cette nouvelle IA Grok qui est dans X et qui est un utilisateur parmi d'autres, mais qui peut être piloté directement par X, on peut voir aussi que Grok, par exemple, accepte de donner des consignes de vote ou des conseils de vote aux utilisateurs. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est pas forcément dans le focus de la justice actuellement, mais en tout cas il y a toute une série de problèmes que présente X. Et le vrai problème en fait, c'est que quand ces problèmes sont remontés à X, il n'y a pas de coopération avec la justice.
Il y a le patron de X France qui expliquait récemment pourtant que la plateforme avait des règles strictes, claires, visant à protéger notamment des discours de haine. Donc ça, c'est totalement faux?
C'est totalement faux au sens où on en voit tous les jours des discours de haine. Et donc, si vous voulez, évidemment, en tant que patron de X, il défend sa plateforme, mais les faits sont que les discours de haine existent, que X volontairement a supprimé toute une partie de sa modération qui, en fait, visait justement à prévenir ce genre de problèmes, que donc il y a une volonté de X de pousser le discours qui se passe sur X jusqu'aux zones les plus sombres, les plus obscures de la circulation d'informations. Encore une fois, la diffusion de contenu négationniste récemment à la suite d'une modification explicite et intentionnelle de l'algorithme de X, en est une preuve, par exemple.
Oui, mais visiblement, Elon Musk se moque complètement de ce qu'on peut lui dire. Il a été sanctionné par l'Union européenne, il refuse de payer des amendes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la justice française peut faire?
La justice française, elle peut faire comme on fait, par exemple, la justice brésilienne. Elon Musk a refusé pendant tout un temps de respecter les consignes de la justice brésilienne. Le Brésil a décidé de fermer X au Brésil et Musk finalement s'est plié et a dit « Ok, bah, si vous fermez X, je veux bien respecter la loi ». En fait, il faut comprendre que ce genre de plateforme ne respecte que les rapports de force et ils iront le plus loin possible dans la violation de la loi tant que ça ne leur coûtera pas trop cher. Donc le coup d'après, éventuellement, c'est l'interdiction de X en France.
Ça, vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, vraiment ?
Quand vous avez un commerce qui respecte pas la loi, que ce soit une entreprise de tech ou un boucher, eh bien, à un moment donné, il est fermé. C'est juste, c'est la loi.
Parce qu'on a l'impression qu'Elon Musk est un peu tout puissant.
Il est tout puissant, mais l'Europe et la France sont quand même puissantes sur leur terrain. Donc, il y a possibilité de prendre des mesures. Par contre, il est possible que ça escalade d'un point de vue géopolitique, parce qu'on sait que les États-Unis, notamment Donald Trump, est derrière Elon Musk et X, parce que du point de vue de Donald Trump et de l'administration Trump, X est un outil très puissant en fait de contrôle et d'influence des populations et d'outils d'une arme géopolitique. Et donc, c'est possible que si il y a des mesures fortes contre X, eh bien, ça escalade au niveau géopolitique et que ce soit les États-Unis qui disent, comme ils l'ont déjà annoncé d'ailleurs, si vous touchez à X, on pourrait se retirer de l'OTAN ou on pourrait mettre des droits de douane. Donc, ça veut dire que pour l'administration américaine, X est un peu au même niveau que des armes militaires en termes d'influence.
Le chercheur du CNRS, David Chavalaria, spécialiste des réseaux sociaux, qui répondait sur France Info à Céline Baydarcourt. Nous serons sous terre dans la playlist de Maureen Suignard qui arrive, mais d'abord, c'est l'heure de l'Actu Éco avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Actu Éco en trois titres. On commence avec l'Allemagne, Emmanuel, qui a désormais la population active la plus âgée de l'Union européenne.
Oui, un quart des travailleurs du pays sont en effet âgés de 55 à 64 ans, selon les chiffres officiels. Cette tranche d'âge représente près de 10 millions de personnes sur les quelques 41 millions d'actifs de la première économie européenne. Alors, ce niveau s'explique avant tout par le vieillissement croissant de la population allemande, mais aussi un départ de plus en plus tardif à la retraite. Une tendance à l'allongement de la période de travail que le chancelier allemand Friedrich Merz veut encourager pour stimuler l'économie du pays.
Le deuxième groupe français bancaire bat tous ses records de bénéfices.
Oui, il s'agit de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Le groupe du secteur coopératif a réalisé l'année dernière un résultat net de 4 milliards 100 millions d'euros, en hausse de 15% sur un an, et ce pour un chiffre d'affaires proche de 26 milliards d'euros. Alors jamais BPCE n'avait enregistré de tels chiffres depuis sa création en 2009. D'excellents résultats qui reposent sur une croissance dans toutes les activités des banques populaires et caisses d'épargne, en particulier la division banque de proximité et les assurances.
Le constructeur chinois de voitures électriques BYD va produire un modèle dédié spécifiquement au marché indien.
Et oui, BYD qui signifie Build Your Dreams, construisez vos rêves.
Quel accent.
Et oui, celui qui est pour une fois, celui qui est aujourd'hui le numéro un mondial des voitures électriques prépare en effet une version pour le continent indien afin de poursuivre sa croissance rapide à l'étranger. Le prototype n'a pas encore été dévoilé, ni les coûts de développement.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, ce sera le Brief Éco.
Le marché du meuble en France a enregistré l'année dernière un nouveau recul des ventes. Troisième année consécutive de baisse qui pèse évidemment sur le moral de l'ensemble des entreprises du secteur. Mais quelques signes encourageants émergent pour l'année qui vient de commencer.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de votre playlist Maureen et vous nous emmenez, allez, on le devine avec un son. Dans le métro.
Quelle production.
Je suis sûr que ça fait plaisir à tous ceux qui nous écoutent d'entendre ce mélodieux son.
Nous sommes donc dans le métro parce qu'il n'y a pas que du bruit, William, dans les sous-sols, dans les couloirs bondés. Il y a aussi des artistes qui entendent bien accrocher l'oreille des touristes ou des voyageurs pressés. Le casting des musiciens du métro à Paris vient de débuter cette semaine. La RATP, la Régie des Transports, sélectionne 300 artistes qui auront le droit de se produire dans les prochains mois. Et on peut dire que cela a porté chance à certains.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur.
Zaz dans le métro.
Ouais, ça c'est connu. Hein. Zaz, qui a fait un carton avec Je veux, a été l'une des artistes sélectionnées par la RATP au début des années 2000. C'est aussi le cas de Claudio Capeo, William Baldé ou encore Kezia Jones. Le chanteur nigérian s'est fait repérer en 1991 dans le métro parisien par un producteur. Et il n'y a pas que les artistes officiels, bien sûr, ils sont nombreux à se produire de manière clandestine, disons, à se frayer un chemin entre les wagons. Elle a commencé comme ça. Vous l'avez, William ?
Évidemment.
L'âme, la star des années 2000, qui a chanté d'abord pour ceux qui voulaient se déplacer dans la capitale, tout comme Renaud, Alain Souchon et ce monsieur.
Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de
un certain Danny Briand qui a fait une petite carrière derrière ça. Oui. Et dans un autre style, il y a aussi eu Ben Harper qui a fait ses armes à Paris, le chanteur et guitariste américain. Et puis certains ne sont pas devenus des stars planétaires, mais ont enchanté les oreilles de milliers de voyageurs. Mohamed Lamouri, malvoyant de naissance, très discret, s'est produit pendant plus de 10 ans dans le métro, debout, son synthétiseur à l'épaule. Mohamed Lamouri a finalement sorti un album. Ça vaut le coup d'enlever ses écouteurs et de profiter du moment.
C'est bien vrai. Et d'ailleurs, personne ne le sait, mais on vous a découvert, Maureen Finière. Vous lisiez vos brèves dans le métro de Rennes. Et c'est comme
mais
ça que vous êtes arrivée.
Je les déclamais.
Oui. Et puis quelqu'un faisait la météo dans le métro de Dax. C'est Christine Pédia, elle arrive.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Je ne savais pas qu'il y avait un
métro à Dax.
Christine Peña.
Non, mais j'ai commencé la radio à Dax.
Ah bah voilà,
ça, c'est vrai.
Vous voyez, tout
ce recoupe. Faisant la météo d'ailleurs.
La météo avec ce soleil qui fait un petit passage.
Un petit passage, effectivement. Pas Dax alors, hein, mais un petit passage au nord. Hier, il était dans le sud. Vous en avez profité. Bah, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est au nord. On a une petite journée de répit avec... peu de pluie, c'est vrai, mais elle est pas loin, cette pluie. Alors, elle est déjà là, du côté de Toulon, des côtes varoises, en basse vallée du Rhône également, jusqu'aux Cévennes. Elle donnera de la pluie. Elle est poussée par ce vent marin, ce vent de sud, qui souffle assez fort, à 70 km par heure. Et puis, nous avons également un peu de vent de sud sur les Pyrénées, dans le sud-ouest, avec cette nouvelle perturbation qui arrive timidement par les côtes atlantiques. Et elle sera sur les deux tiers ouest du pays d'ici ce soir. À Paris, on va profiter du soleil comme au nord, près des frontières du nord et du nord-est également, toute la journée avec des températures un peu comme hier, alors 15 degrés à Perpignan, toujours doux hein, dans le sud d'ailleurs, 14 à Marseille comme à Biarritz, même si vous perdez quelques degrés à cause des nuages, 11 du côté de Lille, 12 à Paris, à Caen, à La Rochelle, à Limoges et à Bourges, un petit 6 tout de même pour Strasbourg.
Merci Christophe.